Le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Emmanuel Macron desserre l'étau du confinement. Après les commerces ce week-end, les musées, cinémas et théâtres pourront ouvrir leurs portes le 15 décembre. Le président n'a pas oublié le monde culturel, vous l'entendrez.
Emmanuel Macron qui appelle tout de même les Français à la responsabilité pour les fêtes de fin d'année. La France franchissait hier la barre des 50 000 décès dus au Covid-19.
Les commerces, la culture, les cultes, oui, mais pas pour les salles de sport ou les restaurants. Pour tous ces établissements, il faudra attendre le 20 janvier au mieux. L'exécutif promet des dizaines de milliers d'euros en échange. Scepticisme d'un restaurateur dans cette édition.
Et puis à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, nous nous pencherons ensuite sur un nouveau site internet, Mémo de vie. Il permet aux victimes de sécuriser les témoignages des agressions subies.
Dans cette édition, enfin, vous comprendrez pourquoi le patron de l'OMS est accusé par l'Éthiopie d'aider des rebelles dans le Tigré. Les combats pourraient s'intensifier sur place dans les heures qui viennent. La culture est donc dans le calendrier. Au lendemain d'une lettre qui rassemblait 350 signatures, directrices et directeurs de lieux culturels, Emmanuel Macron semble les avoir entendus. Lors de son allocution hier soir, le président de la République a détaillé les assouplissements du confinement dans le pays. 3 étapes, 3 dates étalées sur 2 mois. Nous y revenons dans un instant. Mais avant tout donc, voyons la réponse du monde de la culture. Au monde de la culture, réponse d'Emmanuel Macron, c'est avec vous Éric Chavroux.
Place d'abord dès samedi aux bibliothèques, archives et librairies. Elles pourront ouvrir à nouveau comme les disquaires et comme tous les autres commerces dits non essentiels. En revanche, les libraires ignorent encore dans quelles conditions précises ils devront recevoir le public. Combien de personnes par mètre carré, par exemple, en quête d'un bon livre ou d'un cadeau de Noël ? Sous une pression et des critiques croissantes du monde culturel, Emmanuel Macron a pris le temps de le remercier.
Je veux ici dire combien je remercie. Et combien nous soutenons tous les acteurs de la culture, à qui, je le sais, nous avons tant demandé, mais qui ont tenu, qui ont créé, innové, su trouver de nouveaux publics dans ce contexte si difficile. Nous avons besoin d'eux.
Autre liberté accordée, cette fois au 15 décembre, et si la situation sanitaire le permet, aller au cinéma, au théâtre et dans les musées, en respectant là aussi des règles très strictes, avec la garantie des gestes barrières et sans oublier le respect d'un couvre-feu à partir de 21h. Un système d'horodatage pourra permettre l'organisation des représentations en fin de journée, a aussi précisé le chef de l'État. Enfin, le 20 janvier, la culture gastronomique pourrait reprendre vie avec la réouverture éventuelle des restaurants, mais aucune date n'a été fixée pour les bars, discothèques, concerts ou festivals, sans un mot, par exemple, du spectacle musical.
Merci Éric Chavroux. Alors que des précisions pourraient encore être apportées ce matin, librairies, puis théâtres, cinéma et musées, comment Emmanuel Macron déconfine progressivement la culture. Vous pouvez retrouver cet article sur notre site franceculture.fr ce matin. 3 étapes donc, on l'a compris, pour espérer vivre plus librement l'année prochaine. Ces 3 dates concernent tous les secteurs d'activité. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Le président Rosalie s'est attaché hier soir à donner de la visibilité, des perspectives.
Oui, doucement mais sûrement. La première étape, c'est donc ce week-end, réouverture de la plupart des commerces, des lieux de culte, fin de la règle du 1 km. Deuxième étape, le 15 décembre, si la situation sanitaire le permet, le confinement sera levé, mais remplacé par le retour du couvre-feu.
Partout sur le territoire, un couvre-feu de 21h à 7h du matin sera mis en place. Nous pourrons circuler librement les soirs des 24 et 31 décembre, pour partager ces moments en famille. Mais les rassemblements sur voie publique ne seront pas tolérés.
Et puis, 3e étape, ça nous emmène au 20 janvier, réouverture possible des restaurants, disait Éric, des salles de sport aussi. Tout cela reste bien sûr soumis à l'évolution de l'épidémie. Alors, à chaque petite respiration, son protocole sanitaire renforcé, assorti d'un appel à la responsabilité.
Et c'est d'ailleurs sur cette responsabilité qu'insiste beaucoup Emmanuel Macron, Rosalie.
Oui, tout ou presque est entre nos mains finalement. Voici pour exemple quelques extraits de l'intervention présidentielle d'hier soir.
J'en appelle à votre sens des responsabilités qu'il nous faut poursuivre nos efforts. Vous aurez un rôle central pour notre réussite collective. Nous ne sommes pas, vous n'êtes pas passifs durant cette crise. Nous avons tous un rôle à jouer. Chacun de nous a entre ses mains une partie de la solution.
nous, vous, solidaires, bienveillants et surtout responsables. Noël en famille, oui, mais restez vigilants. On n'en est pas au retour des jours heureux, pour reprendre les mots présidentiels de juin. Il ne faut pas se relâcher, ne pas céder au complotisme non plus, insiste Emmanuel Macron, malgré tout optimiste.
Aujourd'hui, nous tenons ensemble. Demain, nous vaincrons ensemble.
Un ensemble qui s'effrite déjà, les stations de ski sûrement privées d'ouverture pour les fêtes, les discothèques toujours dans l'incertitude, des catholiques frustrés par la jauge des 30 personnes pour les messes, quand certains quittent la liste des déçus ou des en colère, d'autres prennent rapidement leur place.
Merci Rosalie. Rosalie Lafarge du service politique de France Culture, vous évoquez à l'instant les déçus, gérants de discothèques, salles de sport, restaurateurs, évidemment, eux vont devoir attendre, vous le disiez, le 20 janvier au mieux pour pouvoir rouvrir leurs établissements. Pour les soutenir, le gouvernement renforce son fonds de solidarité. Ils pourront bénéficier d'une indemnisation à hauteur de 20% de leur chiffre d'affaires mensuel de l'année dernière, quelle que soit la taille de l'établissement, avec un plafond à 100 000 euros par mois pour 200 000 entreprises environ en France, quoi qu'il en coûte, a redit hier Emmanuel Macron. Mais le chef cuisinier David Ratkerberg du restaurant L'Assiette à Paris attend des actes. Il répond pour France Culture à Anne-Laure Jumet dans la foulée de l'annonce.
C'est déjà bien, ça nous permettra de pouvoir payer nos loyers. C'est très bien, mais encore une fois, il faut que le décret soit signé. Moi, j'ai toujours pas été remboursé de mon chômage partiel de octobre et les 10 000 euros, alors que ma comptable a tout fait, on n'a toujours pas touché 10 000 euros. Donc si c'est encore qu'une effet d'annonce, on se rappelle dans un mois et puis je vous dirai si je les ai touchés. Aujourd'hui, qui nous aide ? Personne. Parce que tous les prêts, il va falloir les payer, les PGE, il va falloir les payer, l'impôt sur le Covid qui va arriver, il va falloir le payer. Maintenant, c'est compliqué, mais c'est dans un an, deux ans, ça va être encore dur. Il faut voir à long terme, qu'est-ce qui va se passer ? Et il y aura 60% de casse dans notre métier. Ça, c'est un réel constat. Je n'ai plus de sous, je n'ai plus d'économie. Je devrais aujourd'hui, à l'âge que j'ai, à 48 ans, je devrais jouir de ce que j'ai créé. Ben, je l'ai pas. Je l'ai plus. J'avais acheté un local juste avant le confinement, juste à côté de mon restaurant. Ben, aujourd'hui, je fais de la vente à emporter dedans, dans une épicerie fine. Donc, je pense que c'est cette affaire qui va me sauver, en fait.
Car effectivement, oui, la plupart des commerces, eux, peuvent rouvrir, je le rappelle, dès ce week-end, dès samedi. Le nombre de clients par mètre carré doit encore être affiné dans les jours qui viennent. Enfin, n'oublions pas aussi le quotidien des jeunes. Les activités périscolaires en extérieur vont pouvoir reprendre, a dit le chef de l'État hier soir. Demi-groupe ou courant, partie à distance, toujours pour les lycéens et jusqu'au 20 janvier. Mais c'est surtout pour les étudiants que la situation restera compliquée. Les cours en présentiel dans les universités ne reprendront pas normalement avant le 3 février, ce qui pourrait encore accroître le nombre de décrocheurs, notamment pour les premières années de licence, souligne Paul Maillot, le président de la FAGE.
Déjà pendant le premier confinement, on avait avec la FAGE commandé une enquête auprès de l'Institut de sondage Ipsos qui avait donc mis en avant le fait que plus de 80% des jeunes, 84 exactement, étudiants avaient estimé être en situation de décrochage. C'est une situation qu'on retrouve toujours aujourd'hui et du coup il faudra vraiment dès l'entrée mettre une priorité sur l'accompagnement pédagogique donc des jeunes et en priorisant les publics qui sont d'ores et déjà marqués par les inégalités des chances, je pense aux néo-bacheliers ou ici ou ceux en réorientation par exemple. Aujourd'hui il y a des centaines de milliers de jeunes qui sont dans une situation de détresse psychologique et de pauvreté qui est inédite. On voit la précarité qui s'accroît au fil des jours et bon, je pense qu'il est réellement temps de mettre la question des jeunes au centre des priorités.
Des propos recueillis pour France Culture par Hakim Kasmi. Vivre au temps de l'incertitude. Nous ouvrirons la discussion avec le psychiatre Serge Effez après cette édition et nous commencerons d'ailleurs par le billet politique. Dans 8 minutes environ, Frédéric Seyss analysera tout à l'heure la façon dont Emmanuel Macron a tenté d'insuffler de l'optimisme chez les Français. Emmanuel Macron qui estime notamment que les premiers vaccins pourraient débuter fin décembre, début janvier pour les personnes les plus fragiles, vaccins qui ne seront pas obligatoires. C'est une des conséquences du confinement, la possibilité d'avoir recours à la visioconférence en matière de justice. Une ordonnance du 18 novembre dernier, la semaine dernière, le permet, mais plusieurs associations d'avocats et de magistrats ne souhaitent pas cette visioconférence. Nous l'avons évoqué lors du procès des attentats de janvier 2015. Les accusés, disent ces avocats, doivent être présents. Les associations ont donc déposé un recours devant le Conseil d'État, référé liberté, examiné hier. Florence Turme. 167 sessions d'assises reportées au cours du premier confinement. En livrant ce chiffre, le représentant de l'État indique que l'ordonnance n'est pas spécifiquement liée au procès des attentats de janvier 2015. La visioconférence n'est possible qu'une fois les interrogatoires terminés, au moment des plaidoiries, du réquisitoire et de la dernière prise de parole de l'accusé. Mais cela suffit à dénaturer la procédure d'assises, soutient l'avocat des associations requérantes, Patrice Spinozzi.
Des hommes jugent un autre homme et pour ça, il faut que tout le monde soit présent au même endroit et c'est ce qui a toujours été voulu par ceux qui ont pensé la cour d'assises. Il s'y passe beaucoup de choses, il y a des regards qui s'échangent au-delà des mots, il y a des attitudes qui sont perçues au-delà des mots, il y a quelque chose qui dépasse ce qui est simplement dit et qui est ressenti et c'est l'intime conviction qui réussit à naître de tout cela. Et quand vous allez prendre la décision extrêmement grave de juger un homme qui peut être condamné à plusieurs dizaines d'années d'emprisonnement, eh bien, il faut que vous ayez eu la totalité de la mesure de cet homme. Ça n'est pas simplement ce qu'il a dit, c'est aussi ce qu'il a été du début jusqu'à la fin de son procès.
Les associations dénoncent un dispositif hors sol. Les représentants de l'État parlent d'un simple outil temporaire venu à l'appui de la situation sanitaire. 2 heures d'argumentaire, mais le juge du Conseil d'État veut des éléments chiffrés complémentaires avant de rendre sa décision d'ici la fin de la semaine.
C'était Florence Turme.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. 2 enquêtes visent des policiers pour des violences sur un migrant et sur un journaliste.
Oui, après l'évacuation musclée de centaines de personnes, place de la République à Paris avant-hier soir, l'IGPN, la police des polices, est saisie. Et c'est dans ce contexte que l'Assemblée nationale a validé hier en première lecture la proposition de loi sur la sécurité globale. Elle prévoit notamment de pénaliser la diffusion malveillante d'images identifiant des forces de l'ordre. L'hémicycle hier soir était quasi plein. Le texte présenté par la majorité a recueilli 388 voix pour, 104 contre, 66 abstentions. La lutte contre les violences conjugales souffre d'un manque criant de financement, selon la Fondation des Femmes. Elle publie son rapport intitulé « Où est l'argent pour protéger les femmes victimes de violences ?» aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale contre les violences faites aux femmes. Pour pousser un peu plus à l'investissement ciblé, une concertation a été organisée ces derniers mois sur la plateforme internet make.org. Résultat donc, 400 000 participants, 3 400 propositions et 4 pistes déjà présentées. Ce matin, on retient le site Mémo de vie de l'association France Victimes. Il sert à conserver et à sécuriser les traces des violences lors du lieu.
Mémo de vie se destine aux victimes de violences, mais aussi à leurs proches. L'idée est simple, pouvoir consigner, stocker, documenter de manière sécurisée le maximum de traces de ces violences. Des traces qu'une victime peut difficilement garder dans son téléphone, par exemple si le conjoint violent fouille à l'intérieur. Ce peut être des photos, des enregistrements sonores ou des documents officiels et médicaux. La plateforme permet aussi de tenir un journal et d'évaluer son sentiment de danger. Et ça sert aussi de mémoire externe. Et oui, car on sait que les traumatismes peuvent engendrer des troubles de la mémoire. Et puis relire ou revoir des documents archivés peut aider à une prise de conscience chez la victime. Mais attention, ces documents ne constituent pas des preuves légalement. En revanche, au cours d'une enquête, le conjoint soupçonné de violence peut y être confronté. Et détail qui a son importance, sur n'importe quelle page du site, un bouton rouge est disponible pour quitter directement le site en cas de danger. Ce bouton renvoie vers le site de Météo France. Enfin, sur Mémovie, on trouve aussi des contacts d'associations et des informations juridiques sur les droits de la victime. La plateforme doit être développée plus largement au premier semestre 2021, avec l'objectif à terme de venir en aide à 20 000 victimes chaque année.
Voilà pour les aides activées pendant le confinement en France. Tous les pays ne les ont pas mises en place. Des marches pour les droits des femmes ont récemment eu lieu en Namibie, au Liberia, au Costa Rica, au Guatemala et en Roumanie. Aujourd'hui, c'est notamment en Turquie que des rassemblements auront lieu pour dénoncer les féminicides à l'occasion donc de cette journée contre les violences faites aux femmes. Le Premier ministre éthiopien avait donné jusqu'à aujourd'hui aux dirigeants du Tigré pour se retirer. Les combats ne faiblissent pas depuis 20 jours dans cette région frontalière de l'Érythrée et du Soudan. Avant l'ultimatum, les appels au cessez-le-feu se multiplient au sein de la communauté internationale. Mais voilà un homme qui vient bousculer un peu plus la situation. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, est accusé par l'armée éthiopienne d'aider les rebelles du Tigré. Et il se défend, Nadine Epstein.
Certains rapports suggèrent que je prends parti dans cette situation. Ce n'est pas vrai. Je travaille pour rassembler les parties en guerre et pour entamer un dialogue pour négocier la paix, a tweeté le directeur de l'OMS. Monsieur Tedros répondait au chef d'état-major de l'armée fédérale qui lui reprochait de soutenir le front de libération du peuple du Tigré. Ces accusations ciblées contre le responsable onusien de la santé viennent après plusieurs incriminations contre des organisations internationales. Le gouvernement éthiopien affirmait mi-novembre avoir transmis au programme alimentaire de l'ONU une liste d'agents du TPLF qui travailleraient dans des organisations locales et internationales. Le pouvoir éthiopien est également intervenu auprès de l'Union africaine installée à Addis Abeba pour qu'elle se sépare de son directeur de la sécurité originaire du Tigré.
En Éthiopie, une lutte historique de culture politique territorialisée. C'est aussi un article web à retrouver sur notre site franceculture.fr. Quelques mots du temps de ce mercredi en France métropolitaine, plutôt ensoleillé, excepté sur le nord-ouest et le Languedoc où il sera gris, voire humide. Ce matin, il fait 1 degré à Belfort, 3 à Grenoble, 6 degrés à Dunkerque, 8 en Île-de-France et 11 degrés à Marseille. Guillaume.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal, 8h16 sur France Culture. Dans quelques instant, nous allons évoquer les annonces d'Emmanuel Macron, les annonces d'hier soir, avec la réouverture des commerces non essentiels et la levée progressive du confinement et la mise en place d'un couvre-feu, avec le psychiatre Serge Effèze, qui est psychiatre au groupe hospitalier universitaire Sainte-Anne et à l'hôpital de la Salpêtrière, et puis avec votre billet politique, Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Vous allez évoquer ces annonces, n'est-ce pas ?
Oui, Emmanuel Macron est-il le dernier optimiste de France ?
Et puis, dans une demi-heure environ, nous aurons affaire à d'autres optimistes. Hervé Gardette pour sa transition, Géraldine Mosna-Savoie pour son carnet de philosophie et Arnaud Laporte qui donnera la parole à un artiste. Allez, il est 8h17 sur France Culture.